la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On le voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Salut à tous, une troisième émission d'Un Livre sur le Zinc qui va nous emmener en voyage aujourd'hui. Alors on voyage jusqu'au bar Le Commerce. Pourquoi le voyage? Pas pourquoi le commerce, mais pourquoi le voyage? Car ça y est, après un long mois chargé pour la médiathèque départementale de Lozère, le mois du film documentaire sur le thème du voyage est terminé. En fait, avec cette émission, on clôture un peu ce long, long mois. Salut Marlène.
Salut.
En fait, Marlène, ça y est, c'est fini, on va pouvoir se reposer à la médiathèque.
Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça.
Oh Claire, tu as l'air toute reposée, sortirais-tu de ton cours de yoga?
Mais ça doit être ça, namasté.
C'est pas aujourd'hui l'émission détox, c'est la prochaine, bientôt, le 3 janvier. Popo est là, salut Popo.
Salut tout le monde.
Alors Popo, pour se détendre, elle tape sur un tambour devant un match de rugby.
Ah ouais, c'était très chouette.
Tu vois, Claire, chacun sa manière.
C'est-à-dire en mode batucada ou...
Oui,
ah
tout
ouais
à fait,
ah,
en
super
mode batucada.
Tu l'as offert cette année?
Viens.
Tiens Valérie, tu n'es pas déguisée ce soir.
Non, j'ai pas reçu de consigne de déguisement aujourd'hui, mais j'ai mis ma peau de mauvaise humeur.
Ah, mais c'est bien, on aime bien
c'est
quand
c'est un déguisement assez invisible, mais vous allez bien le ressentir.
Bah c'est bien, moi j'aime bien quand t'as peau de mauvaise humeur.
J'y crois que j'y vais.
Ouais. Mais non, parce que c'est toi
on
qui va commencer.
En voyage.
C'est toi qui va commencer, Marlène, un livre, il me semble que tu as beaucoup aimé, « Chaussez vos après-ski, mettez bonnet et gants » de Pierre Edos de Bérangère Cournu va nous emmener en Arctique à la rencontre des Inuits.
C'est ça. Et effectivement, j'ai adoré. Alors, c'est un livre qui a été primé par le roman FNAC de cette année. Donc déjà, il avait été fléché bon livre, mais je valide. Alors, en gros... Je vais commencer par parler juste de la couverture. J'ai adoré cette couverture. Elle est vraiment super jolie. Je sais pas, c'est assez voilà, des couleurs pastel, de très très belle couverture.
Voilà, on voit un Inuit au bord de la glace avec un ours polaire au loin, un cadavre d'ours à ses pieds. Je pense que c'est d'ours, je sais pas. Il semblerait. Avec un soleil couchant.
C'est ça. Donc déjà ça c'est très joli. À l'intérieur, il y a à la fin quelques photos d'Inuits qui sont très jolies. Mais alors, le gros bémol que je vais mettre, c'est que comme c'est fait, en fait, on les voit pas bien. Parce que du coup, l'encollage du livre fait que du coup, c'est coupé au milieu, là où c'est censé être joli sur les visages. Voilà. Donc ça, c'est le bémol du livre. Après, pour vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, c'est une héroïne qui s'appelle... Alors, excusez-moi, hein, pour ceux qui savent l'inuit, comment ça se prononce. Ugzuralik.
J'aurais dit pareil.
Voilà. Et du coup, en fait, on découvre cette jeune fille au tout début du livre qui a 16 ans et qui se retrouve tragiquement séparée de sa famille lorsque la banquise se fend et s'écarte. Et en fait, pour moi, j'ai fait tout de suite un parallèle avec le fait que c'est le jour où elle devient réellement une femme, que ça se produit. Et à partir de là, en fait... Eh bien, on va découvrir toute sa vie de femme. Donc après, je vais pas spoiler la fin, puisque je sais que, Pauline, tu n'as pas fini, donc voilà. Mais voilà, l'histoire, c'est Ugzuralik, et c'est sur toutes les traditions inuites. Alors, ce qui est très joli dans le livre, c'est que c'est ponctué de chansons inuites. Au début, on se demande pourquoi il y a des chansons comme ça. Et en fait, elles ponctuent des passages du livre, et elles permettent une compréhension de certains petits passages et de l'histoire, en fait. Alors, ce que j'aimerais savoir et que je ne sais pas, c'est si tous les parallèles qui sont faits au niveau des traditions inuites sont toutes vraies ou si ça a été romancé sur une partie. Alors ça, je ne sais pas.
Ça, moi, j'ai trouvé. Et apparemment, c'est basé sur un très, très, très gros travail de recherche. Alors, a priori, je pense qu'on peut faire confiance. Elle a énormément travaillé sur des travaux de grands chercheurs. Enfin, voilà, c'est renseigné.
Alors, Au départ de ce livre, en fait, l'auteur a découvert des toutes petites sculptures inuites en os ou en pierre tendre qui représentaient des animaux de façon très simple, mais en fait avec une grande puissance évocatoire. Et Bérangère Cournu a voulu en savoir plus sur ce peuple capable de produire de tels objets. Et c'est suite à ce travail qu'elle a effectué pour elle-même, d'ailleurs, à la base, que lui est venue l'idée d'écrire un roman sur les Inuits. Voilà, c'est en faisant toute cette recherche sur ce peuple qu'elle s'est dit, je vais écrire un roman. Bérangère Cournu, qui avait écrit avant Né contente à
Nairobi,
à Oraibi.
Oraibi. Ouais,
ouais. Qu'on a lu pour l'émission.
Oui, on l'avait lu.
Ouais.
Voilà. Et en fait, qui nous faisait découvrir la culture des Indiens Hopi. Donc, Hopi, c'est ça?
Oui.
En fait, elle poursuit sa recherche d'une vision alternative du monde avec un roman, donc, qui nous amène cette fois-ci vers cette culture-là. Ouais.
Et c'est vraiment très joli. Alors c'est vraiment ponctué de toutes les traditions, de la vie. C'est emprunt aussi beaucoup de chamanisme. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup comme ça de relations à la terre, aux animaux, à la glace, au vent.
On y est complètement. On est dans le Grand Nord, on est avec eux, on vit avec eux et on découvre une vie. Mais qui a... Je suis incapable de dire si c'est un livre qui se passe aujourd'hui, de nos jours, si ça se passe il y a 50 ans, On est incapable de savoir tellement la vie n'a rien à voir avec la nôtre et du coup c'est que des découvertes et on comprend et on suit et on adhère complètement et on vit avec eux. Enfin c'est une pour moi aussi ça a été une une merveille géniale.
Après c'est rude hein. On se rend compte qu'ils ont une vie quand même c'est rude hein. Même les femmes enfin elles on peut pas voilà tout dévoiler mais la vie d'une femme inuite est particulièrement rude quand même.
Oui. Tu l'avais lu, Pauline Année Contente?
Oui, oui. Mais c'est un peu le même style, esprit, voilà. Finalement. C'est la femme au cœur de, voilà, d'une tribu. Cette tribu, ça me gêne un peu, mais. Au milieu d'un peuple et qui devient femme et qui grandit. Et c'est même pas que là-dessus, en fait. C'est sur toutes les traditions, c'est hyper riche. Comme bouquin, moi ça me fait penser un peu, alors en moins bonne qualité on va dire, mais pour ceux qui connaissent Ella, l'enfant de la terre, c'est un des livres qui m'a donné l'envie de lire, où c'est pareil, la vie d'une femme au temps de la préhistoire, et on est dans ce genre de roman où on découvre tout un nouveau monde, c'est génial, on voudrait qu'il y en ait d'autres.
On sent le grand froid, les grands espaces, oui. C'est bien décrit tout ce
totalement.
Qui est
ouais. Même tout, enfin les animaux marins, les animaux terrestres qui sont vraiment polaires, enfin je veux dire les ours, les phoques, les narvals, enfin vraiment et c'est tellement bien décrit, même un passage où il y a du vent là et avec tout un côté chamanique où on a l'impression que le vent arrive et que c'est vraiment un dieu enfin voilà le qui déboule et on a ben quand on le lit en fait moi j'avais vraiment la sensation que ouais le vent il était là quoi que j'étais protégée dans l'igloo pareil enfin tout
oui on y est
ouais.
Et les seules cette fille tout au long de l'ouvrage ou bien
non.
On retrouve les siens
non.
C'est des nomades, du coup, ils se croisent beaucoup.
Oui. Et elles changent souvent de. Enfin, c'est des familles, en fait, qui se composent et se redécomposent. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça, en fait. Au gré des saisons, l'été, ils se retrouvent dans certains lieux. Et ils vont recroiser une tante, un oncle, des voisins, enfin voilà. Et du coup, elle va rester avec eux quelques saisons. Elle repart. Mais il y a beaucoup de parties où elle est toute seule, surtout au début. Et c'est là où je me disais, c'est vraiment au début, elle est toute seule. Et là, on a vraiment l'impression qu'elle est mais perdue, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment elle va survivre? Enfin, moi, ouais, c'est assez. Enfin, il y a un passage assez rude où ses chiens essayent de l'attaquer. Enfin, c'est très. Voilà.
Ça oui, non, anxiogène, vraiment, quand tu le racontes.
Mais au début, c'est très poignant. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était rude. Mais au fur et à mesure, on comprend et puis c'est leur vie quoi. Oui. C'est tellement loin de la nôtre, mais c'est et en même temps c'est beau quoi. Et en même temps, on se dit elle est arrivée à survivre. Enfin voilà, elle a surmonté ça. Elle avait quand même des clés parce que bah du coup dès qu'ils sont petits, ils sont baignés là-dedans, donc ils ont quand même voilà, ils prennent des habitudes. Ils vont pas dehors sous certains vents, certaines neiges. Enfin voilà, ils font des provisions. Toute la saison d'été, si on peut parler d'été, voilà. Et en fait, ça se trame comme ça. Mais le passage que j'ai choisi, si je peux en lire un, c'est justement au tout début, pour éviter que ce soit où vraiment on sent qu'elle est seule quoi, mais qu'elle est dans un joli monde quand même. Je suis à nouveau seule sur le territoire, à la recherche de baies et de petits gibiers. Je dors sur des tapis de mousse quand il y en a. Ou parmi les solnins. Il fait chaud, trop chaud parfois. Cela n'est pas bon. Les moustiques m'assaillent et j'ai peur que les maladies fondent sur moi. Ikazouk, pleure certains soirs. Je me demande si des esprits ne rôdent pas. Ce matin, j'ai cueilli une grande quantité d'érelles. Je les mange par poignées. Ça finit par me faire grincer les dents. Je ne les aime qu'avec du sang de phoque, mais je n'ose pas revenir vers la côte pour chasser. J'ai peur de la mer depuis que j'ai touché le Toupigac. Je crains aussi de chasser sur la toundra, car toutes les armes que je possède, ma lance, mon couteau, mon harpon, ont servi récemment à tuer des animaux marins. Si je touche un animal terrestre avec ça, je vais mettre son esprit en colère. Je préfère encore mourir de faim. Et puis j'ai à nouveau mal au ventre, comme à chaque lune désormais. Mais cette fois plus encore que d'habitude. Je ne vais pas tarder à perdre mon sang. J'imagine que les animaux le savent et que je ne devrais pas regarder vers le nord, où passeront bientôt les caribous.
Ah, sacré caribou, hein. Voilà. Faites attention toujours quand vous avez vos menstruations, quand il y a des caribous dans le coin. Toujours, toujours.
C'est son neuvième livre. Il y a un lien avec le caribou qui a le nez rouge, Rudolf, ou aucun?
Pardon?
Tu parles des rennes ou...
Ah, c'était un renne, c'était un caribou.
Oui, oui, c'était un renne.
Le Papa Noël, c'est pas tout de suite.
C'est le neuvième livre de cet auteur. J'ai lu plein de... Pour me renseigner un peu, j'ai vu plein de vidéos où elle parlait de ce livre, elle parlait d'elle-même. Très, très intéressante, cette femme. Et elle disait que grâce à ce prix FNAC... Ben, sa vie a un peu changé, du coup elle est invitée partout, etc. Et ça lui faisait drôle, sans plus, parce qu'elle écrit pour elle, pour écrire, pas pour vivre, elle vit pour l'écriture, pas le contraire. Mais voilà, très très intéressante, et ça donne, rien que de l'écouter, ça donne envie de le lire.
Ah oui. Et puis vraiment, moi j'ai adoré.
Ouais, oui, oui, allez-y, les yeux fermés. Hein.
C'est un beau roman initiatique où on sort de l'enfance et où on devient femme.
C'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Ouais.
Ah, et ouais. Ça y est, et ouais, on va continuer avec les prix. On va continuer avec les prix après le prix du roman FNAC, le prix Fémina 2019, Par les routes de Sylvain Prudhomme. Claire, donc tu as lu ce livre et j'ai fait la relecture, je vais pouvoir en parler un peu. Mm-hmm. Explique-nous alors, Par les routes.
Alors, Par les routes, Sylvain Prudhomme. Donc, ça raconte l'histoire du narrateur qui s'appelle Sacha, qui est un Parisien d'une quarantaine d'années et qui a envie de se recréer une nouvelle vie. Donc, qui part en province, quand on est Parisien, et qui s'installe donc dans la petite ville de V, dans le sud de la France. Je crois qu'on a cette information-là. Voilà, donc il s'installe, il loue un petit deux pièces, voilà, à peine meublé, et puis il a pour objectif d'y écrire. Voilà, et puis finalement, le roman s'écarte complètement de cet univers-là, du romancier qui veut peut-être réinventer son univers littéraire, etc. Il retrouve un de ses amis d'enfance. Alors, on ne sait pas son nom, il s'appelle l'Autostoppeur. Donc, d'où le titre qui s'appelle Par les routes. Et il va imprégner l'univers de cette personne-là. Enfin, et donc, il va le retrouver gentiment. Il va rencontrer sa femme, qui s'appelle Marie, son fils Augustin. Et puis, petit à petit, il va prendre de plus en plus de place dans la vie de cet autostoppeur, jusqu'à, je ne révèle pas la fin. Mais le roman finalement n'est pas vraiment fait de ça. Le roman est surtout fait de qu'est-ce que fait l'autostoppeur quand il n'est pas à la maison et pourquoi il n'est pas à la maison. Eh ben, il n'est pas à la maison parce qu'il fait, comme son nom l'indique, l'autostoppeur. Voilà. Alors je vous en parle sur un ton quand même un peu comme ça, un peu déçu, je l'avoue, parce que c'est un peu le défi là de ma petite minute à 48 FM, c'est que j'ai moyennement aimé ce prix qui a quand même reçu un prix littéraire et qui a quand même été salué par la critique. J'ai trouvé un article dans comment cette revue littéraire, La Lire. Voilà, ça a été... Bon, moi, très honnêtement, j'ai pas trouvé le personnage de l'autostoppeur convaincant. Parce que c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui passe sa vie sur les routes et... Bon, il a quand même un enfant, il aime sa femme, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, donc il cherche pas non plus,
à fuir,
exactement. Non, pas du tout.
Il cherche la liberté, en fait.
Il cherche la liberté.
C'est pas, pour lui, c'est la liberté. Oui. En fait, Prudhomme ne montre pas que le roman, le personnage principal de ce livre est Marie. En fait, c'est un trio, voilà. C'est un trio, comme l'a dit Claire, avec Sacha, donc, qui part. Il retrouve cet autostoppeur. Ils étaient très amis quand ils avaient 20 ans. Il le retrouve 40 ans après. Et il se rend compte que cette personne est toujours avide de liberté. Donc, il prend le temps, bien qu'il ait une femme et un enfant, de partir sur les routes pour retrouver cette liberté. Et du coup, Sacha comble un peu le vide laissé par l'autostoppeur. Et en fait, cette Marie, elle est au carrefour de ces deux personnages. Prudhomme pose une question en disant, mais très simple, que beaucoup de personnes ont dû se poser dans leur vie, c'est pour être heureux, faut-il partir ou rester ? C'est le postulat.
Les deux.
Oui, tout à fait.
Et c'est exactement la réponse de ce livre et la réponse qu'a Prudhomme. Oui. En fait, il veut montrer la liberté de ces deux voies. Celle de la liberté infinie, de l'autostoppeur, du désir d'approfondir ce qu'on a, de partir et compagnie. Et celle également d'être sur place et d'approfondir les relations qu'on a avec quelqu'un alors qu'on ne bouge pas finalement. Mais il existe cette liberté. Et Prudhomme veut montrer qu'on n'est pas forcément moins libre en étant là et non pas en voyage. Et Marie est au carrefour de ces deux postulats. Moi, je rejoins Claire, j'ai eu du mal à rentrer dedans aussi. J'ai eu du mal tout le long du livre et après, avec du recul, en réfléchissant, j'ai plus aimé ce livre. Mais j'en aurais pas fait un prix littéraire non plus, je suis totalement d'accord, quoi.
Oui, parce que bon, c'est bien écrit, mais l'écriture est assez banale, c'est fluide.
L'idée est intéressante. L'idée qui met en place ce postulat, voilà. Après, la forme, le fond.
Moi, si l'autostoppeur, il avait eu 20 ans, qu'il sortait de la fac, enfin, je l'aurais trouvé plus crédible, ou à la limite, je sais pas, même qu'un cas, enfin, l'âge qu'il a, mais en plein divorce, enfin, en train de claquer son boulot, enfin, je sais pas. Là, bon, c'est vrai que justement, ça interroge la figure de la liberté, mais telle qu'elle comme ça, il m'a pas convaincu.
Allez, deux pas convaincus.
Un demi-tente alors.
Voilà, prix féminin.
On pourrait Valérie. Lui retirer son prix.
On pourrait peut-être lui retirer son prix. Il y a, chez Prudhomme, dans tous ses livres, il y a toujours de l'ambiguïté, cette ambivalence entre le mouvement, le surplace. Voilà, c'est souvent le cas. Mais bon, il a été salué par la critique et par les prix.
Oui,
donc,
alors les thèmes abordés, l'auteur a écrit que c'était la liberté offerte à chacun. La question du renoncement, de l'amitié, le hasard des rencontres et les conséquences de l'amour.
Voilà. Est-ce que, en partant, autostoppeur laissait un vide aussi amoureux ? On n'en dira pas plus. Hein, Claire ? On n'en dit pas plus.
Non.
On ne sait pas.
On vous laisse savourer.
Je suis pas sûre de le lire quand même. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai eu peur au début. Je me suis dit, par les routes, il veut faire un clin d'œil à Kerouac. Ça va être ça. C'est l'écrivain qui a 40 ans, qui s'appelle... Son nom commence par un S, comme Sylvain Prudhomme. Ça se passe dans un village du sud de la France. Il vit à Arles. Voilà, c'était parti sur ça. Et ça m'a un peu décontenancé. Et en fait, non, on part pas sur ça. Et c'est le propos reste quand même intelligent. Mais voilà, on rentre pas forcément dedans. Enfin, du coup, nous, on n'est pas forcément rentré dedans. En parlant de rentrer dedans, Popo, tu as lu...
Non, on ne dit pas les mots interdits aujourd'hui.
Un autre Éden. Et j'ai hâte qu'elle nous lise ce qu'elle a choisi. Un autre Éden de Bernard Chambaz.
Alors, ouais.
Pareil, j'ai vu des vidéos de lui. Les vidéos ne m'ont pas convaincu. Je sais pas le roman, mais ça m'a un peu fait flipper. Ouais.
Alors, je vais pas en parler trop parce que j'en ai lu, allez, on va dire, les deux tiers.
Ah, c'est bien
mais,
déjà.
Ouais, mais si j'en ai lu les deux tiers, c'est parce que en fait, je me suis beaucoup ennuyée dans ce livre. Alors, je fais la mauvaise critique sur un ancien prix Goncourt. Hein, il a eu le Goncourt du premier roman, donc je prends risques. alors le pitch, si on peut dire, à la mort de accidentelle de son fils Bernard Chambaz, hein, vraiment a choisi donc son fils de 16 ans, il a choisi
accident de voiture.
Ouais, il a choisi de partir sur les routes au Canada sur les traces de Jack London et avec sa femme, enfin son amoureuse comme il l'appelle, c'est assez joli. Ouais, qui le suit et dans son esprit, Jack London est mort à 40 ans et au moment où il décide de faire ce voyage, son fils aurait eu 40 ans. Et du coup, là, se crée une espèce de rencontre entre son fils et Jack London revivent et se retrouvent et il les observe, il les regarde vivre ensemble sur la route. Donc voilà, avoir des échanges, etc. Et donc lui les accompagne dans ce périple. Donc ça, c'est une partie du livre. Et donc c'est en parallèle. Du coup, on revient sur toute la vie de Jack London pendant ce road trip. Toute sa vie à travers ses relations, surtout. À chaque fois, on a un personnage central, une conquête, un ami, ou alors ça peut être aussi une expérience particulière, un métier, etc. Alors effectivement, Jack London, il a eu des milliers de vies, il a fait plein de choses, il a rencontré plein de monde, mais bêtement, je m'attendais à des tas de grands voyages, des tas et c'est pas que ça, mais non, on peut pas, voilà, il a eu une vie aussi classique de personne normale, et c'est peut-être ça où finalement je suis un peu retombée parce que bah il a été il a eu une vie tout à fait classique, il a été balayeur, il a été il a eu des amours déçus, il a fait plein de enfin il a fait des choses classiques, il a eu une vie pas la vie incroyable qu'on imagine. Alors il a quand même aussi été chercheur d'or, hein, il a fait des trucs aussi, mais finalement dans le roman on ressent une certaine voilà, donc
il me semblait qu'il voulait centrer sur son amour des femmes.
Alors,
sur
oui,
l'amour
c'est
de
là.
London, sur l'amour des femmes, sur ce qu'il y a de beau, hein.
Oui, c'est là, mais c'est là aussi en plus où moi j'ai eu un petit frein, c'est que c'est quelqu'un, je pense, alors je sais pas s'il était pas très sûr de lui ou, mais par exemple dans son amour des femmes,
London,
ouais, il est assez décevant en fait, il est, je l'ai pas trouvé ultra sympathique comme personnage, enfin j'en suis pas ressortie émerveillée par London comme peut-être je l'attendais trop.
Ça va que ses livres sont bons quand même.
Oui, alors après pour ce livre-là, il y a quand même énormément de qualité. Si vous aimez London déjà, c'est l'occasion de découvrir sa vie. C'est extrêmement bien écrit. C'est ça qu'a porté ma lecture jusqu'aux deux tiers, sinon je pense que je me serais arrêtée avant. C'est plein de d'émotions, on sent voilà, c'est plein de poésie là, c'est très très personnel, tous les passages où il nous parle de son fils, on a l'impression donc là je parle de Shambaz, on a l'impression de rentrer dans sa vie personnelle. J'ai peut-être eu aussi l'impression d'être un peu voyeuse. Enfin, j'ai un ressenti très bizarre sur ce livre. Je me dis que peut-être qu'il l'a écrit beaucoup pour lui et que du coup ça se ressent quand on est un lecteur extérieur. On a l'impression de rentrer dans son intimité à des moments. Mais voilà, c'est une très belle écriture et ça c'est sa grande qualité, je pense, à ce bouquin. Mais pour moi, pas un coup de cœur, je dois le dire.
Alors, c'est tiré du le titre, bien sûr, ça donne un clin d'œil à Martin Eden, ouais. Un des plus grands livres de Jack London. On parle souvent d'autres livres, alors que celui-là est un livre très 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 fort. L'auteur a découvert sur une interview qu'il donnait le rapport que Jack London avec les femmes, notamment avec les correspondances de Jack London avec ses filles. Et c'est vrai que on le traitait souvent de goujat avec les femmes, Jack London, etc. Et l'auteur a trouvé justement cette relation qu'il avait où il écrivait à ses filles, où il leur disait j'ai vu des belles robes en soie, où il décrivait toutes les robes, comment elles étaient faites, mais un côté très féminin.
Oui.
Et il a trouvé dans les livres de Jack London que London ressortait souvent une même phrase qui était « si j'étais une femme ».
Ça, on le ressent beaucoup dans le livre. Shambaz a réussi à nous le faire ressortir, effectivement. On voit ce côté très féminin et oui. Oui.
Val, tu as la relecture, j'ai
non,
marqué
j'ai
relecture
pas,
Val.
J'ai pas eu le temps, tu me l'as donné hier, Ludo.
C'est vrai. Et alors ?
C'était un peu compliqué.
Et si tu dors pas, en 8 heures, tu peux le lire. Hein.
J'aurais pu, mais je dors, en fait.
D'accord. Bon, bah écoute. Mais tiens, Val, on va rester avec toi.
C'est vrai ?
Tu veux nous lire un petit passage ?
Eh bien, comme tu m'avais pris mon livre, ben, j'en ai pas choisi.
D'accord.
Ah, donc ça, en fait, ça fait une semaine qu'il a ton livre, et il me l'a donné hier.
Non, mais je l'ai jamais récupéré, ce livre.
Je suis venue te le déposer la semaine dernière, Valérie.
C'est vrai ?
Je ne l'ai jamais eu entre les mains.
Oh là là.
Je tiens à rétablir la vérité, Claire.
En plus, j'étais sûre de moi dans mon mensonge.
Allez, on va quand même rester avec toi.
C'est vrai, vous me gardez quand même.
Tiens. Ouh là là, ouais. Alors, on va partir dans un polar à plus de 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya.
Ouais.
Esaou de Philippe Kerr, où on mélange paléontologie et politique. C'est intéressant,
absolument.
Tiens.
Absolument. Ouais, ben, pourtant, ça aurait pu faire peur parce que j'ai choisi ce livre juste à cause du titre. Parce que j'aime bien, c'est un prénom hébreu qui me plaît beaucoup. Et après, j'ai vu que c'était un polar.
On n'est pas polar, non.
Eh bien, en fait, non, c'est bien parce que ça met la moitié du livre pour devenir un polar. Donc, ça, c'est parfait. C'est une belle surprise en fait. Moi qui aime pas les polars, moi qui ai beaucoup de mal avec tout ce qui se passe dans la neige, moi qui ai beaucoup de mal avec tout ce qui est alpinisme, j'ai adoré. Ah. Oui, mais je suis pas losérienne, c'est pour ça à la base. Hein. Voilà. Je suis une expat. Non, eh bien.
Vrai qu'il n'y a pas de neige de là où tu viens.
Non. T'as déjà vu de la neige sur Albi? Si ce n'est la neige que Toulouse-Lautrec nous met dans les yeux.
Oh là là.
C'était pas de la neige et c'était pas dans les yeux. Bref.
On ne parle pas de drogue dans cette émission, s'il te plaît.
Je parlais des peintures et c'était dans l'âme.
Ah oh d'accord, la neige
et de l'absinthe dans le ventre aussi des fois.
J'ai mal compris.
Voilà, bref. Donc sur ces, on peut revenir à mon livre absolument fabuleux, plein de beauté. Ézaou. En fait, Ézaou. Donc tu nous.
Ézaou, j'ai dit.
Alors oui, mais je sais pas.
Il y a deux points sur le U.
Ouais,
donc,
mais en même temps.
J'aurais dit Ésaü aussi. Ésaü. Moi, j'aime bien.
Eh ben, pas pour Ésaü. Il n'y a pas de problème. Alors là, on peut l'appeler E, même si vous voulez. Ésaü. Donc, tu veux pas nous parler de Philippe Carr ou...
Ah oui, alors, j'ai vu
parce
une photo
Ta stagiaire a fait un contre-rendu, il me semble.
Eh ben, non, justement, mais c'est bizarre parce que c'est à chaque fois sur tes livres que je travaille pas l'auteur.
C'est vrai, c'est fou.
En fait, je suis allé voir les photographies de cet auteur et je l'ai trouvé très beau.
Il est très beau.
Il est très beau.
Il était très beau.
Et oui, et après, j'ai vu, il est décédé l'an dernier d'un cancer à l'âge de 62 ans et ça m'a refroidi. J'ai dit non,
finalement, un mal pour un bien, ça a permis.
Notre Éden. Ah, il parle de son
fils qui est mort
à 16 ans. Bon, je vais arrêter là.
Ouais, c'est pour ça que tu t'es allongé.
C'est pour ça que je me suis allongé.
C'est pour ça que tu t'es allongé sur le canapé et que tu as demandé à ta stagiaire de lire ton livre pour toi.
C'est ça.
On a des preuves.
Ouais, je sais pas.
Non, mais en fait, c'était un mal pour un bien parce que du coup, en fait, ce livre de Philippe Carr, c'est une réédition. C'est un livre qu'il avait déjà écrit il y a longtemps. Donc, mais tu n'as vraiment pas fait la bio, Ludo?
Non, vraiment.
T'es gonflé, punaise. Donc, c'est un auteur, en fait, qui avait écrit une trilogie sur le nazisme, en fait, à Berlin. C'est principalement ses ouvrages les plus connus. Mais là, Ésaü, voilà. C'est sa première parution, c'était en 1996.
Ah,
bon,
oui.
L'avantage, c'est que quand t'es dans l'Annapurna, que tu sois en 96, en 2016, y a rien qui change, c'est de la neige. Bref. Non, alors, c'était un chouette voyage. C'était un chouette voyage et j'ai eu vraiment un peu peur au départ parce que c'était un alpiniste américain qui partait là, sur l'Annapurna et j'ai eu un petit peu peur. Et en fait, voilà. Donc, il nous amène à l'autre bout du monde, sur les contreforts de l'Himalaya, au pied de la montagne qui s'appelle le Machu Picchu.
Oui, on est dans pas au Machu Picchu.
Non, oui, je confonds un petit peu.
Je pense qu'on nous arnaque là déjà.
T'as l'air du Machu Picchu. Ouais.
Tout à l'heure, je suis tombée sur Nairobi. Je me suis un peu trompée. Donc, il est sur le Machu Picchu, dans le sanctuaire des Annapurna. Donc, notre héros, c'est Jacques Furness. C'est un alpiniste renommé. Et il est en train de faire l'ascension du Machu Picchu. C'est une montagne qui, pourtant, est interdite d'accès. En fait, les autorités népalaises refusent que les alpinistes aillent sur ce massif au nom de tout un tas de lois. Et donc, il est avec ses Sherpas et son ami fidèle Daniel quand ils sont surpris par une avalanche. Tout le petit groupe est emporté, lui aussi, mais par chance, lui, miraculeusement, il est en vie dans une crevasse. Il survit. Ah ouais, mais c'est américain quand même, donc il peut y avoir des rebondissements. Donc il survit grâce à une demi-bouteille de bon whisky qu'il avait sur lui, clin d'œil à Ludo. Et alors qu'il est en train d'essayer de sortir de cette crevasse, il découvre un crâne d'hominidé et un bout de mâchoire, mais dans un état de conservation fossilisé absolument incroyable. Alors, concours de circonstances absolument prodigieux.
Comme de par hasard.
Non, sa petite amie, sa petite maîtresse, qui s'appelle Stella Swift, et, attention.
Chanteuse de country.
Non, ça aurait pu.
Elle aussi dans une autre vase, juste à côté.
Non plus. Heureux concours de circonstances, elle est paléo-anthropologue.
Ah,
et bim, il découvre un crâne fossilisé. Incroyable. Alors, il se dit, ne serait-ce pas un bon cadeau à lui faire?
Lui qui est coincé dans sa crevasse, lui,
passant,
il passe un coup de fil.
Non, voilà. L'amour, alors, popo, l'amour, vois au-delà, s'il te plaît.
C'était la séance capillotractée du livre. Là, je me suis dit, bon, allez, j'arrête.
Plus,
sur ma note, c'est marqué. Claire, elle est en train de lire capillotractage plus. Je l'ai dit, tu vois que j'ai lire mes notes, parce que des fois, Donc bref, donc Kerr, il va nous balayer les origines du Ramapithecus à l'Homo vertex. Moi qui ai toujours détesté ces périodes-là de la préhistoire, j'avais piscine, j'avais séché tous les cours et me voilà maintenant à la pointe de tout ça, en passant par les sapiens et toutes les multiples autres circonvulsions qui mettront à mal votre cerveau. Bref, il a vulgarisé la paléoanthropologie pour nous, et bien c'est plutôt chouette. Donc notre Jacques Furness s'en sort, il revient aux États-Unis, il va voir sa belle Stella Swift et il lui offre
ce crâne. Autant dire que la nuit d'amour qu'il avait espéré est passée à l'as, tellement elle a été éblouie par ce crâne en si bonne conservation. Elle en fait des moulages, elle va de suite à l'université, elle fait signer des contrats confidentiels à tous ses collègues parce qu'elle est sûre d'avoir entre les mains un bijou. Et ensemble, ils vont monter une nouvelle expédition pour tâcher d'en apprendre plus sur ce fossile. Tout cela, bien sûr, aidé par la CIA. Hein, on est aux États-Unis, je le rappelle. Et je vous rappelle que c'est édité chez Montblanc Noir. Donc, il fallait quand même un peu de suspense. Voilà. Et donc, au départ, la bourse est rejetée. Puis finalement, il y a une trêve entre le Pakistan et l'Inde. Donc, finalement, on leur accorde la bourse. Et notre petit groupe repart sur l'Annapurna. Mais Jacques n'a toujours pas dit qu'en fait, ce n'était pas sur l'Annapurna, mais sur le Machu Picchu qu'il avait trouvé le crâne. On est à 20% du livre. Et là, j'arrête mes plaisanteries parce que là, ça va monter d'un cran. Eh ben, trêve de plaisanterie. Donc, on arrive à avoir une personne qui est infiltrée, une personne de la CIA qui est infiltrée, mais on connaît pas trop ses motivations. Et notre petit groupe, donc, part dans l'Annapurna. Et là, on a des descriptions absolument magiques, fabuleuses. Les glaciers, les crevasses, la neige, les tempêtes. Un milieu hostile qui ne pardonne aucune erreur. Clin d'œil à ton livre, Marlène. On parle de géopolitique, de paléontologie, de théorie de l'évolution, d'espionnage, de l'impact des religions dans les sociétés, de génétique moléculaire, nucléaire, et son impact sur le climat et l'avenir de la Terre.
Il manque que le soleil et la plage.
Non, justement, pas de caribou.
Il n'y a pas de caribou.
Mais attendez, parce que l'équipe de chercheurs est suffisamment diversifiée pour nous fournir une belle palette de renseignements sur les grands singes, le climat, la biologie. Eh bien oui, parce que le personnage que nous cherchons à retrouver, c'est bien le Yeti, avec tout le sérieux que nous apporte ce livre. Eh bien oui, il est question de l'abominable homme des neiges. Ce n'est peut-être pas qu'un mythe et les révélations de son ADN pourraient bien bouleverser toutes les théories évolutionnistes.
Je commence à douter que tu l'aies vraiment aimé. Là, j'y crois pas du tout.
Non, mais c'est assez
incroyable. Moi, je commence à l'aimer.
Moi, je croyais qu'il y avait quelque chose de super et là, bam.
Non, mais c'est assez incroyable. C'est que je ne l'ai pas senti arriver. Alors, comme j'ai l'esprit un peu bizarroïde, que souvent je plaisante, comme vous le savez, je me disais, mais... C'est pas quand même, elle pense pas quand même au Yeti. Elle est paléo-anthropo. J'ai dit qu'elle, c'était quoi son métier imprononçable?
Ouais, paléo-anthropologue.
Elle croit pas au Yeti quand même. C'est pas possible. Et en fait, il s'avère que quand elle a vu ce crâne, quand elle a vu que ça, l'état de conservation, c'était pas assez vieux pour être de l'époque des très très vieux sapiens et autres Ramapithecus hominus vertex. Eh ben. Elle a eu cette théorie-là, donc elle a fait des recherches sur le Yeti, justement, sur tous les alpinistes de renommée qui avaient vu le Yeti. Et Jack Furness, son mec, enfin pardon, son crush, comme ils disent, il a vu le Yeti. Et en fait, son sponsor lui avait dit, tu fais passer ça pour le mal des montagnes, puisque c'est quelqu'un qui voyage sans oxygène. Et il était convaincu, en fait, effectivement, d'avoir le mal des montagnes et qu'il avait, son imagination avait joué des tours. Mais là, ils avaient la preuve que non, il y avait bien une créature qui vivait là-bas. Alors, là, j'en plaisante, mais il y a quand même aussi un côté mystique parce qu'on a aussi un Sherpa qui s'appelle Urke, qui est très loyal, qui est très très spirituel, qui est un peu namasté. Il fait des salutations au soleil sur le peu d'heures de soleil qu'il y a dans l'Annapurna.
Dans les crevasses.
Et en fait, c'est, bizarrement, autant voilà le côté Yeti, je trouvais ça vraiment aussi. Je trouvais ça un peu exagéré. J'ai dit merde, non, pas le Yeti, quoi,
ouais,
pas
non,
Tintin.
Pas Yeti,
tu me refais pas Tintin, Jacques. Comment il s'appelle Philippe Kerr. Bon, il est mort, donc il va pas m'écouter, mais c'est quelque chose qui passe bien. Ça passe bien parce que tout ce qu'il y a autour du Yeti, c'est tellement bien amené, tellement bien renseigné, tellement précis sur le sujet, qu'on y croit.
Tu sais que t'es en train de faire péter les ventes des AU pour Noël,
oui, là.
Au pied du sapin.
L'édition du Mont Blanc,
ils vont pas y croire. Je vous dirai pas pourquoi le titre. En fait, moi, je l'ai choisi pour le titre, mais je vais pas vous dire pourquoi le titre. Ben parce que c'est dit dans le livre, ça n'apporte absolument rien à l'histoire, mais c'est chouette.
Ah. J'adore, bravo.
Ouais, quelle chronique.
Bravo. Je suis pas sûr que
de
Popo
surprise
l'achète,
en surprise.
Mais...
Non, mais c'était,
je suis curieuse.
C'était improbable. Il était improbable ce livre. Et moi, il m'a réconcilié avec tous les livres qui parlent de la neige et des montagnes enneigées qui me. C'était pas quelque chose qui me plaisait foncièrement. Et là, j'irai toujours pas faire de l'alpinisme, trop froid, mais trop la flemme aussi. Mais ça, il y a vraiment des descriptions qui sont qui donnent envie, qui font rêver. Et j'ai bien voyagé et merci la médiathèque départementale de Lozère pour ce choix parce que c'était un chouette voyage.
Cool. Voilà. D'ailleurs, en parlant de la médiathèque départementale de Lozère, j'ai marqué relecture Marlène.
Eh ben, je l'ai pas eu parce qu'elle l'a pas fini.
Elle vient de l'avoir dans les mains il y a une minute.
Elle
l'a
marché, ces histoires de relecture.
Et que moi qui ai relu, en fait.
Mais j'ai adoré.
Freedom. Merci. Allez, on va faire une pause musicale. Tiens, allez, je te laisse choisir la chanson. Tout est permis. Vas-y.
Moi?
Ouais. Ce soir, tout est permis. Devinez qui je suis.
Voyage, désir, la compagnie créole, on va pas mettre ça. Une fois par an, ça suffit.
Ouais, deux ou trois fois par an.
Oui, mais justement, une fois par an, ça suffit.
Allez, qu'est-ce que tu veux écouter, Valérie Chemet?
Je sais pas, on pourrait mettre
tout ce que tu veux.
Spontanément, comme ça, sans réfléchir, vu qu'on fait que se clasher, ben, The Clash.
Et quelle chanson de The Clash?
Et comme je rentre du Maroc il y a pas longtemps, Rock the Kashba. Oui, ouais, parce qu'avant Lisbonne, si aussi, mais j'étais à Marrakech. Si, si, mais une semaine avant, j'étais à Marrakech.
Allez, voyageons, rock the Casbah. Allez, voilà. C'est parti.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill.
Et c'était Rock in the Casbah des Clash.
Rock the Casbah.
Hein, pardon ?
Non, rien.
Ouais, un petit reggae. Un petit reggae d'un groupe punk. C'est pas mal, ça, hein ?
Parfait.
Ouais, ils sont forts, ces Clash. Allez, je vais vous parler maintenant, je vais vous présenter Amazonia de Patrick Deville. Alors Amazonia, c'est un roman sans fiction, j'ai appris ça, on en apprend tous les jours. Est-ce que tu sais, Valérie, ce que c'est un roman sans fiction ?
C'est un roman qui relate une vérité absolue, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a aucune fiction, aucune chose n'a été inventée. C'est la vérité, rien que la vérité, je lève ma main droite et je dis « je le jure ».
C'est en partie vrai ce que tu dis. Popo, tu sais ce que c'est un roman sans fiction ?
Ah ben j'ai rien à ajouter, c'était pas mal sa définition, non ?
Ouais, mais en fait...
C'est incomplet, certainement.
Il y a plus alors. C'est-à-dire, Patrick Deville nous reprend des événements, des villes, n'invente aucun personnage, aucune date. Et la création, ce qui en fait un roman, est la manière de les combiner, de les joindre à ces mois de parcours. Car Patrick Deville a parcouru pendant des années le monde et il a fini de parcourir le monde pendant 20 ans. Il a pris des carnets où il a écrit un peu toutes ses expériences. Ces carnets de séjour, là en l'occurrence en Amérique du Sud, Amazonia, on parle du fleuve d'Amazonie, voyage d'une quinzaine d'années. Et il s'est dit en revenant en 1977, je vais créer un projet qui va s'intituler Abracadabra et qui vise l'écriture de 12 romans sans fiction qui vont raconter un peu mon tour du monde. Et ce livre, alors il me semble que c'est le 7e ou le 9e, je sais plus, je l'ai écrit quelque part, je vais revenir dessus. Et sur ce roman, il est parti avec son fils. Oui, Valérie.
Dans le désert ?
En Amazonie.
Depuis trop longtemps ? Non, c'est pas le même, c'est pas le même nom.
Non, pas du tout.
C'est pas Deville aussi, Patrick Deville ? Ah non, Cap Deville, pardon. Cap je retire.
Oui, retire. Donc, il est parti avec son fils pour faire ce voyage. Il a décidé de faire le tour du monde pendant 2 ans, dans un sens, dans l'autre, d'en extraire ses romans. Lui, il nous emmène sur le fleuve Amazonie, sur les rives du Pacifique, avec son fils, âgé d'une trentaine d'années. Ce roman part donc de 1860, en gros, jusqu'à 2019, mais en revenant quand même sur la première descente du fleuve au XVIe siècle. Donc, il raconte son voyage avec son fils et il met en relation des histoires qui sont passées sur le fleuve Amazonie, comment il a été découvert à l'époque par les conquistadors, par les premiers explorateurs. Et il raconte beaucoup d'histoires aussi de père et de fils. Par exemple, Persifocette et son fils qui ont disparu sur ce fleuve alors qu'ils recherchaient des cités antiques. Alors, il y a un film super qui est sorti en 2016, vraiment excellent, qui s'appelle The Lost City of Zed, qui relate l'histoire de ce Persifocette qui est parti plusieurs fois pour rechercher des cités antiques, rien que pour montrer, c'était un anglais, à la grande bourgeoisie anglaise, qu'il y avait des peuples qui, à l'époque, n'étaient pas qu'indigènes, qui pouvaient créer des choses extraordinaires, parce qu'à cette époque, les anglais pensaient que les occidentaux avaient tout créé, qu'il y avait que des sauvages partout, et sa dernière exploration, il est parti avec son fils, il est jamais revenu. Donc, il en parle aussi dans ce roman. La question de la filiation est très, très intéressante, elle est très présente. Alors, l'auteur nous dit, donc je vais citer un passage du livre, et c'est bien parce que je l'ai filé à Nico qui devait faire la relecture.
Mais il arrive là, il est en train de finir de démonter un spectacle.
Mais qu'il n'a pas lu, que j'ai eu croisé ce matin.
Alors, s'il ne l'a pas lu, peu importe qu'il soit en train de démonter un spectacle.
Oh là là, on n'a pas été bon.
D'ailleurs, cette émission va s'appeler Un livre sur le zinc sans relecture.
Sans Nico.
Alors, il nous dit l'amitié paternelle et filiale est interdite. Tabou pour les anthropologues, elle supposerait une impossibilité égalité, une fraternité, laquelle, comme son nom l'indique, bousculerait l'ordre des générations. Le père, quoi qu'il fasse, est trop fragile. Qui se souvient d'avoir été un fils ? Il y a plein de réflexions comme ça intéressantes. Oui, c'est assez chaud. C'est pour ça que je l'ai pris. Il faut un certain niveau intellectuel pour pouvoir le lire.
Qu'insignes-tu là ?
Non.
Tu as été avec ta barque sur le Tarn avec tes fils pour.
Et du coup, j'y suis allé. J'y suis allé. Oui, Claire.
Je te demandais si c'était dans l'idée de reprendre la chaîne des pères et des fils.
Non, mais c'est intéressant cette filiation, cette histoire, cette idée de vouloir faire un voyage avec son fils, de créer quelque chose, de découvrir. Après, le problème que j'ai rencontré lors de la lecture de ce livre sans fiction se trouve au niveau de l'écriture, donc on en parlait un peu hors émission, qui pour moi des fois se ressemble un peu à un copier-coller de biographie, de livres d'histoire, de bouts d'œuvre ça peut être indigeste. On a des longs passages, le thème central est découvert de l'Amazonie. Donc On navigue à coups de rame de Werner Herzog, d'Aguirre, de Fitzcarraldos, de Sandras, d'épisodes de l'histoire du Brésil, du Venezuela, d'épisodes biographiques de conquistadors. À coups, alors, on parle de beaucoup d'auteurs aussi. Non, Valérie, je n'ai pas fini. On parle de Montaigne, de Lévi-Strauss, de Melville, de Thoreau, de Faulkner, de Bernanos, de Stefan Zweig.
Oui, quand on n'a pas les mêmes références, c'est peut-être difficile à suivre.
Et surtout que voilà, c'est un roman sans fiction. Donc, des fois, voilà, on va raconter des histoires historiques qui se sont passées. C'est pas forcément moi ce que je recherche dans un livre de fiction. J'ai envie d'une histoire, j'ai envie de l'écriture. Cette filiation, ça m'a intéressé. C'est très poétique, c'est très beau. Et là, bim, on va parler d'un moment de l'histoire et on lit. Je vais pas dire du Wikipédia parce que ça en est pas. Mais voilà, on lit une définition de ce qui s'est passé. Et j'ai eu un peu de mal, mais c'est voilà, c'est sur la forme que veut donner Patrick Deville à ses 12 romans abracadabra.
Oui, je te trouve un peu dur avec le roman sans fiction parce que c'est juste son écriture à lui qui génère ça. Il aurait pu en mettre moins, faire moins de références et être plus dans le détail de son aventure. Tu peux avoir un très bon auteur qui fasse du roman sans fiction, mais qui soit plus dans le détail des choses, de l'observation, dans le.
Il y a des passages avec son fils. Voilà, c'est. On voit, il a eu des carnets, il a écrit ce qui s'est passé au moment donné avec son fils quand il a remonté le fleuve. Il le retranscrit tel quel. Voilà, il l'embellit pas. Oui. Et ça, c'est gênant aussi. Voilà, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Oui, mais en même temps, c'est sa façon d'être, sa façon de décrire, tu vois. Parce que là, c'était comme si tu accusais le style roman sans fiction. Alors que si t'as un auteur qui fait du roman sans fiction, qui est, entre guillemets, prolifique au niveau du verbe, tu vas pouvoir retrouver le.
C'est ce qui m'a dérangé, en fait.
Le côté roman,
parce
vraiment.
Parce que
Du coup, ça me fait penser, tu vois. C'est peut-être ce qui t'a dérangé, c'est que du coup, tu rentres dans son intimité, puisque c'est du brut. Et ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur celui qui t'a un peu gêné, Pauline,
oui,
tu vois.
Peut-être un peu.
Peut-être que c'est ça aussi, ce côté-là. Parce que du coup, c'est brut comme ça, pouf, c'est livré par rapport à lui, son moment de sentiment avec son fils ou son moment, voilà.
Et oui
du coup,
et non,
c'est
parce
ça
que
aussi qui.
Il le creuse pas trop non plus. Il le creuse pas trop non plus. C'est vraiment, voilà. Mais il a été salué par la critique, par tout le monde.
Il est primé?
Oui, Sylvain Tesson.
Non. Il y a Sylvain Tesson qui a fait un bel article dans Lire septembre dernier, voilà. Mais après, c'est un auteur aussi qui est parti sur un projet de 12 livres, qui est parti sur. C'est un auteur à part, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il est adulé par certains autres auteurs, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a dit depuis 1977, je vais créer 12 romans, c'est un projet, j'ai fait le tour du monde, je vais retranscrire, je vais parler de l'histoire. Là, je parle de ça, là, j'ai parlé avec l'Amazonie, quand même de la relation père-fils, parce que je l'ai fait, avec mon fils. Voilà, donc c'est quand même un concept.
Peut-être il nous manque les clés, du coup. Il faudrait peut-être tous les lire pour vraiment rentrer dans son univers et comprendre un peu mieux le.
C'est ce que je me suis dit.
Tu nous fais ça pour l'émission de la rentrée?
Absolument.
Ça fait 11, ça va.
Ouais. Mais non, mais c'est le 7e ou le 9e, je sais plus.
Ouais, mais c'est vrai que Sylvain Tesson ne manque pas d'éloges à son sujet. Et parmi les phrases à retenir, je pense, de son article, il a dit que lire Deville, c'était continuer à projeter partout une insondable curiosité et une fascination pour toutes les manifestations de la dinguerie du monde et du génie poétique de l'humanité, tour à tour grandiose et lamentable. Voilà, c'était la phrase. Merci Sylvain.
Tiens, parlons de Sylvain.
Oups.
Oups. Oups, comment ça?
Oups, comment ça?
Vite fait, on va parler d'un livre dont on parle beaucoup en ce moment, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, que tu as commencé à lire.
J'ai commencé à lire, j'ai pas fini, j'avoue, j'ai pas fini. Et aussi, j'ai eu du mal à rentrer dedans juste parce qu'en fait, j'étais encore dans De Pierre et d'Os. Et j'étais tellement fascinée par cette histoire que j'avais pas envie d'aller ailleurs, même si c'était aussi la neige, voilà.
Oui, oui.
Bon. Là, par contre, dans La Panthère des Neiges, ben voilà, il part avec son ami Munier qui est photographe, hein, et à la recherche de la Panthère des Neiges, voilà, réellement. Donc, il s'entraîne avant à rester statique et à faire plusieurs heures en attente pour observer, et après ils partent. Et j'en suis là.
Voilà. Ok.
Donc je ne sais pas. Le temps de rentrer dans le livre.
C'est ça.
Mais alors, est-ce que c'est si bien écrit comme chaque fois que Sylvain Tesson écrit quelque chose, est-ce que c'est
j'ai le droit,
délicieux, la langue est belle,
tu as tous les
est-ce
droits.
Qu'il y a des arrêts sur image avec des phrases comme il fait là,
jusque là J'ai pas trop accroché par rapport à l'habitude.
Ah, bon. Il a été primé, hein, prix Renaudot, hein, pour ce livre.
C'est pour ça que je veux pas trop le dire.
Aujourd'hui, on dégomme les prix.
Oui, c'est ça, je sais pas pourquoi. C'est...
Aujourd'hui, on dégomme tout, de toute façon.
Après, c'est comme d'habitude, il a son écriture assez fluide quand même et tout ça, y a pas de souci. Mais j'ai eu du mal à rentrer par rapport aux autres, quoi. Autant, ouais, non.
Est-ce qu'il parle de Yeti?
Écoute.
Ou de CIA.
Ou de CIA.
Au point où j'en suis, non. Maintenant, peut-être, hein. Parce que les traces dans la neige, je sais pas.
Et est-ce qu'on l'a, le livre de photos?
Oui.
Est-ce que tu l'as vu?
Non.
Ah. Pour la prochaine fois, émission détox. À base de photos. Tiens, de photos. On a un livre sur les photos. Mais avant ça, je voulais parler de Comte d'Orient. Et ouais.
T'améliores de runner sur tes transitions.
Comte d'Orient.
Comte d'Orient, parce que alors là j'ai Comte d'Orient, Val, Nico et Marlène dessus.
Non, alors on ne l'a pas eu, mais par contre moi je vais être d'accord avec tout ce que Marlène va dire tant que ce sera positif, parce qu'il s'avère que j'idolâtre un conteur sur cette terre.
Ah ouais.
Lui et ses filles
Raymond
aussi.
Raymond DeVos
aussi. Non. Mais c'est vivant. Ah non.
Chad.
Ouais.
Ziad Darwish
et ses filles sont à mes yeux les meilleurs conteurs qui existent.
Il a écrit sur l'évolution, non?
Darwin, c'était. Tu confonds? Ouais, je sais, mais c'est tellement facile. Et Ziad, il est parti faire le Ziad aussi. Non, on en a plein d'autres comme ça.
Tu as remarqué que j'ai fait un jeu de mots sur
Ouais, je sais, parce que tu te retiens, parce que toi, tu es payé pour faire ça. Moi, on ne peut pas me virer, je suis bénévole.
Ouais, fais attention. On peut virer tout le monde dans cette émission.
Non, il est fabuleux. C'est quelqu'un qui est venu plusieurs...
Il n'y a que Popo qui est intouchable.
C'est vrai.
Je peux dire couille.
Quel casse. Et
voilà.
On l'attendait. On l'a eu. On l'a pas vu. Non, mais Ziad, il est venu plusieurs fois en Lozère, en fait, quand il y a le festival Conte et Rencontre en début d'année, organisé par les Foyers Ruraux. Et on a eu la chance de le voir, de le recevoir. La dernière fois où il devait venir, il a pas pu parce qu'il était pas en grande forme. Et ses filles sont venues, mais elles portent en elles la flamme de Darwish, quoi. C'est assez incroyable. Pour moi, c'est le meilleur conteur qui existe.
Il porte sur lui en plus. Quand tu le vois, il est beau et il est. Tu sens qu'il va faire passer quelque chose rien que quand il est là en fait.
Alors, Comte d'Orient.
C'était pour voyager en Orient.
Je rapproche le micro de Claire.
Comte d'Orient. Alors, c'est un très très joli livre qui est illustré avec. Il y a des illustrations. Mais dessus, c'est des espèces de petites. Je sais pas comment on peut dire.
De dentelles, jeux d'ombre,
avec beaucoup de couleurs. C'est très très joli. C'est ponctué à chaque fois d'un petit proverbe, juste avant un conte. C'est vraiment très joli. Alors là, pour les enfants, moi en tout cas, les miens, ils adorent.
C'est court, c'est très court, c'est agréable ça. Ouais. Des petits moments.
Alors, on va juste faire. J'ai choisi celui-là. La queue du cheval. C'est par la ruse qu'on fait sortir le serpent de son nid. Ça, c'est le proverbe arabe qui débute le conte.
Conte qui parle de
cheval.
De ruse.
Et de ruse. Une caravane faisait halte un jour en plein désert, quand un riche commerçant vint se plaindre auprès du chef. J'ai laissé mon argent dans un coffre et je suis allé faire ma prière au pied d'une dune. À mon retour, sous ma tente, l'argent avait disparu. Les voyageurs étaient nombreux et le chef de la caravane ne voyait pas comment faire pour trouver le voleur. Soudain, il eut une idée. Il rassembla tout le monde. Un vol a été commis, mais le brigand n'ira pas loin. J'ai un moyen simple pour le retrouver. Mon cheval est doté d'un pouvoir. C'est par cela, d'ailleurs, qu'il m'accompagne partout malgré son vieil âge. Je vais le mettre dans une tente fermée. Vous allez y entrer l'un après l'autre. Une fois à l'intérieur, vous caresserez la queue de l'animal... Et vous viendrez ensuite vous présenter devant moi. Le voleur aura une tache noire sur la pomme. Le chef introduisit son vieux cheval sous la tente et l'attacha. Les hommes entraient un par un, fermaient le pan de toile derrière eux, caressaient la queue de l'animal, puis allaient montrer leurs mains. Soudain, le chef attrapa le bras d'un homme en proclamant « C'est bon, voilà le voleur !» L'homme montra ses pommes, elles ne portaient aucune tache. Le chef sourit. Ce cheval n'a pas plus de pouvoir magique que le sable qui est à mes pieds, mais j'ai enduit sa queue d'huile d'olive. Ceux qui n'avaient rien à se reprocher l'ont caressé, et quand ils m'ont montré leurs mains, il y avait de l'huile qui brillait. Le vrai voleur n'a pas osé toucher la queue. Il n'a fait qu'entrer et sortir. Ses mains étaient sèches. Voilà comment je l'ai reconnu. L'homme avoua son vol et rendit l'argent en demandant pardon au marchand.
Bien.
Bravo.
Voilà.
C'est le meilleur griot qui existe au monde.
Mais c'est vrai que c'est très très joli. Puis dans cette collection, là, on en a beaucoup.
Combien de comptes il y a dedans ? À peu près un...
Je dirais 20 au hasard.
Oh non, il y a 40 pages.
Donc il y a... 10 au hasard.
Une dizaine. Une dizaine.
Pendant qu'elle compte, Pauline, tu peux nous chanter une petite chanson ?
Ah oui, oui, vas-y. Tout à fait, évidemment. Il n'y a rien qui me vient, c'est pas de bol.
Elle est précise, hein, t'as vu, il faut...
Non, non, il faut que ce soit...
10.
10.
J'avais juste sur le deuxième essai.
Bravo, Valérie. Voilà. On n'a pas parlé des maisons d'édition sur aucun
livre. En fait, je viens de me dire à 3 secondes, mais c'est passé un peu inaperçu.
C'est vrai.
J'ai dit qu'on en avait beaucoup dans cette collection-là et que c'était aux éditions Saltimbanque.
Saltimbanque.
Ah oui, j'ai entendu que tu en avais beaucoup, mais après, mon esprit s'est égaré. Je regardais Pauline dans les yeux qui allait chanter une chanson.
Tu m'as coupé, c'est dommage.
Oh non.
Peut-être pour enchaîner, on peut enchaîner avec le tien.
Ah, si vous voulez.
Alors, je crois qu'on ferait une belle transition avec ton livre, Valérie. Ton beau livre du porc à jauni.
Alors, je vais reprendre le micro que Ludovic essayait de me voler.
Non, j'essayais de le donner à Claire. Claire n'a toujours pas compris que sur une émission radio, il fallait parler dans les micros, sinon ça ne servait à rien.
Elle est jeune, elle est jeune.
En même temps, si elle parle très fort et qu'elle se recule, on l'entend quand même.
Je ne sais pas.
Lololol. Bref, alors je suis un peu triste parce que ce livre, Nico l'avait vraiment lu et j'ai été le voler dans son bureau tout à l'heure pour le récupérer, pour le ramener. Donc Nico, si tu cherches le livre, il est au Café du Commerce. Mais je pense pas qu'ils soient en train de le chercher. Donc c'est le fameux livre que Ludo me disait, mais si tu l'as, les livres de Darwish, tu l'as. J'ai dit, non, il s'appelle pas Darwish, je te dis qu'il s'appelle Walid Taher. Dis-moi quel est le point commun entre ces deux noms, Jihad Darwish, Walid Taher.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, donc tu m'as pas fait la bio.
Absolument pas.
Merci de travailler pour moi avec autant d'acharnement, Ludovic. C'est toujours un plaisir.
Je suis désolé.
Non, c'est pas grave. Tu es tout pardonné parce que ce livre était aussi fabuleux. Alors, beaucoup plus sérieux que Esaü de Philippe Kerr.
Esaü, de Philippe Kerr.
Alors, c'est un livre donc, qui s'appelle Balade, voyage sans bagage, qui est magnifique. C'est un livre qui est écrit en franco-arabe et qui se lit donc de. Alors, j'ai un problème à la droite et à la gauche.
La droite, tu nous
dans
montres.
Dans les deux sens, voilà. Mais voilà. Et donc, tu le lis dans les deux sens.
Et oui, d'accord, parce que c'est français et arabe.
C'est génial, on va pouvoir lire
ensemble.
Non, mais
c'est le principe des éditions du porc à jauni. Presque tous leurs livres peuvent se lire dans les deux sens.
Et oui, parce que tous les livres, j'ai vu, sont traduits franco-arabe. Et c'est génial. Et en fait, c'est un livre qui amène un voyage. C'est, je suppute que ça raconte l'histoire de Walid, puisqu'il se met en scène dès la première page ou la dernière page, selon dans quel sens on le lit. Alors moi, bêtement, je l'ai lu comme un manga, donc je l'ai lu de droite à gauche.
Super, ça fait un voyage.
Bah ouais, déjà j'ai commencé à voyager, j'étais en manque, ça faisait trop longtemps que j'étais pas partie. Et déjà, dès la première page, en fait, on voit Walid qui s'est représenté avec sa valise de 2016, avec un paysage qu'on essaye de deviner en se disant « Tiens, il y a des choses, ça me fait penser à des paysages que je connais, ça me fait penser à une ville qui m'est pas inconnue. » Et puis on lit ce petit poème où il parle qu'il a voyagé loin, très loin d'ici, aveugle, et qu'il avance sans méfiance. Et il a raison d'avancer sans méfiance parce que si on tourne la page, il arrive dans une autre ville. Et là, il y a tout un tas de détails. En fait, sur une page, on a une petite histoire un peu sous forme de poème qui est aussi écrite donc en arabe. Et sur l'autre page, ben, on a un dessin qui paraît tout simple parce que c'est comme de l'encre de Chine, des traits illustrés qui ont l'air assez simples, mais ça fourmille de détails. Oui. Il n'y a aucune proportion qui est respectée. On va avoir un tuba énorme, un chien plus grand que sa propriétaire, un chat sur un toit qui est deux fois plus gros que deux toits.
J'aime beaucoup les dessins.
Ah, mais c'est fabuleux.
C'est vraiment, c'est
les
très beau.
Les dessins sont vraiment comme s'ils étaient abstraits, mais en fait, ils sont très, très parlants. Et en fait, on voyage de ville en ville. Et dans chaque page, si bien que quand j'ai commencé à lire, j'avais oublié, au bout d'un mois, j'oubliais de lire le texte et je faisais que regarder les images tellement c'était beau. Je me disais, mais mince, mais il est où? Il est à Marseille? Ah ben non, mais en fait, il est à Tanger. Ah, mais je connais, c'est Clermont-Ferrand. Et après, je me suis dit, mais ma pauvre, tu t'égares, ton esprit te joue des tours. Et puis à la fin, sur la première ou la dernière page, selon dans quel sens vous le lisez, il est marqué que ce voyage sans bagage, bah, il traverse les villes de Marseille, de Tétouan, de Tanger, de Clermont-Ferrand, d'Athènes, de Barcelone, du Caire, et un pays imaginaire. Voilà. Et c'est très beau.
En sachant que
très
balade veut dire pays en arabe.
D'accord, je savais pas.
Tu as reconnu Clermont-Ferrand.
Alors j'ai reconnu, non, le premier que j'ai reconnu c'était Marseille en fait, parce que j'y étais il y a pas longtemps, et c'est une image en fait qui est croquée devant le Mucem,
Et c'est un musée que j'adore. Et voilà, c'est celle-ci. Oui. Avec la cathédrale. On peut pas rater. Tiens, donc, qu'est-ce qu'il y a à côté du Mucem? Et c'est là où je me suis dit, ah ben en fait, c'est à Marseille. Mais en tournant les pages, j'ai dit, mais on dirait bien Lyon quand même. Voilà. Et en fait, c'est tout. Tout fait voyager et après j'ai dit mince, il faudrait peut-être lire le texte. Donc je suis repartie, j'ai lu le texte en français, faute de savoir lire l'arabe. Et voilà, le texte était mignon, il était beau, il apportait un petit plus au dessin, mais c'était vraiment un chouette voyage.
Et après, c'est pour les enfants ?
C'est pour tout le monde.
C'est pour tout le monde.
Ouais, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est pour tout le monde parce que les enfants, ils peuvent bien s'amuser avec les dessins. Alors moi, j'ai caché les crayons de couleur parce que ça donne très très envie de les colorier. Oui. C'est pour moi, hein, c'est pour moi parce que les enfants, ils savent qu'on colorie pas les livres. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant la façon dont il arrive à faire voyager juste avec un dessin d'une ville, pas forcément une caractéristique précise de la ville. C'est assez court et c'est très beau, c'est hyper original. Et puis là, tu viens de me faire découvrir que je pouvais aussi le lire comme un livre qu'on va trouver en France, de droite à gauche, c'est ça ?
De gauche à droite.
De gauche à droite, merci. À droite, ouais. Et c'est chouette, alors je vais le relire, hein, je m'arrête là. Ciao.
Oui, mais ça, c'est toute la beauté des livres qui sont produits par cette édition, parce qu'ils avaient commencé, commandé avec la roue de Tariq, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et l'histoire est assez incroyable parce que c'est un livre circulaire. Un lecteur qui lit et le français et l'arabe peut ne pas cesser de lire le livre parce que quand il arrive à la fin, il repart au début. Et je trouve aussi ce qui est très chouette, c'est qu'en tant que lecteur occidentaux, on a beaucoup de plaisir à regarder l'écriture arabe, les caractères.
Oui, c'est
bon,
oui.
Voilà, c'est écrit, c'est informatisé, mais c'est une belle écriture, c'est une belle police et c'est joli juste à l'œil.
Et moi, j'avais jamais vu la police arabe écrite autre qu'à la même. Et donc j'avais l'impression de redécouvrir encore une autre langue en fait. C'est magnifique quoi.
Merci Valérie.
C'est tout ce que j'ai envie
de voyager. Ça
donne envie. Ah, oui. Ouais. Je sais pas ce que Nico en a pensé. Je suis un peu triste qu'il soit en retard.
Je pense qu'il a aimé.
On a fini.
C'était chouette.
Surtout c'est chouette. Aussi pour la jeunesse. C'est aussi. Bon.
Alors il faut savoir que cette émission est préenregistrée. On l'a déplacée pour que Nico soit présent.
Ouais, salut, je suis là.
Non, c'est pas vrai.
On pourrait l'appeler et faire un truc live.
Non, on l'a déplacé parce que je me suis trompé dans les dates. Et que, voilà, je me suis trompé dans les dates. Du coup, on va entendre la première chronique de notre ludothécaire, animatrice sociale, gérante de l'entreprise Avantageux, Claire Lise Chapelle, qu'on ne pourra pas entendre ici. Alors, je suis désolé pour vous parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir rebondir dessus. Je peux vous dire que sur le jeu, la première qui doit débuter le jeu, c'est la dernière d'entre vous qui est allée au Portugal. Je ne sais pas qui c'est.
Je ne sais pas vraiment. Là,
je pense que c'est toi, Valérie.
Ah oui. Tiens, je vais pas le croire. Qui voilà ?
Nicolas.
Qui voilà, Nicolas ? Mais vite, on va vite terminer. Ça évitera la chronique de 4 minutes qui ne sert à rien. Allez, Avantageux qui nous propose une chronique sur les jeux de société sur le thème aujourd'hui du voyage. On se retrouve pour la détox. Vous faites la fête là pour Noël et le 3 janvier, on va vous donner des
chocolat, champagne, petit four,
tout. Et le 3 janvier, on va vous donner des conseils de livres détox. Ok ?
Ça marche.
Allez, merci mesdames.
Bye bye.
Ciao.
Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu qui mène au voyage, puisque le thème d'aujourd'hui c'est le voyage. Je vous propose le jeu Azul de Michael Kisling chez Plan B Games et illustré par Chris Williams. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans mais avec un peu d'aide pour compter les points. C'est un jeu de déplacement et la partie dure entre 30 et 45 minutes. Le contenu, il y a 100 tuiles avec 5 motifs différents, un sac pour y placer toutes les tuiles qui seront tirées au sort, 4 plateaux avec emplacements colorés d'un côté et emplacement grisé de l'autre, puisqu'il y a un degré de difficulté. Un cube noir en bois pour compter les points, grâce à un curseur qui se trouve en haut du plateau. 9 cercles cartonnés appelés fabriques, qui du coup serviront tout au long du jeu. Et un jeton avec le chiffre 1 dessus pour désigner le premier joueur, celui qui a visité le Portugal le plus récemment, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène au Portugal. L'histoire, donc ce jeu va vous transporter au Portugal au XVIe siècle dans le palais royal de Évora. Le roi Manuel Ier a visité le palais de l'Alhambra dans le sud de l'Espagne et il est ébloui par les magnifiques carreaux de faïence introduits par les Maures. les Azuleros. Il décide de faire rénover son palais avec cette technique et nous sommes donc les ouvriers chargés de décorer les murs de ce palais. Le but du jeu, être le joueur à avoir le plus de points à la fin de la partie. La partie se termine à la fin d'une manche, lorsqu'au moins un joueur aura complété sur son mur une ligne de 5 tuiles consécutives. Une partie se joue en minimum 5 manches et chaque manche est constituée de 5 étapes. La première, c'est l'offre des fabriques, c'est-à-dire les petites tuiles vont être disposées sur les fabriques et donc proposer des tuiles pour décorer les murs. La deuxième étape, c'est construction et décoration du mur du palais. La troisième étape, préparation de la prochaine manche. Il y a des bonus pour apporter plus de points en fin de partie. Le premier bonus, c'est terminer une ligne. Ça nous donne 2 points en plus. Deuxième bonus, terminer une colonne. Et là, c'est jackpot, 7 points en plus. Troisième bonus, arriver à mettre les 5 tuiles du même motif sur son mur. Et alors là, on casse la baraque avec 10 points en plus. C'est un jeu qui est très très beau, avec des tuiles très agréables au toucher. Le jeu a été primé As d'Or 2018 lors du Festival international du jeu à Cannes. Je vous souhaite une bonne partie de jeu et si vous êtes intéressé pour vous fournir ce jeu, vous pouvez aller au petit magasin L'Odyssée du Bois qui a maintenant toute une série de jeux. Vous pouvez demander du conseil à la personne qui y est et elle sera ravie de vous renseigner. À très bientôt.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.